Bien, bonsoir et merci d'être venus aussi nombreux pour écouter notre invité de ce soir. Donc c'est avec un très très grand plaisir que nous accueillons Jean-François Kervégan, qui est professeur de philosophie à l'Université de Paris 1 Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France. Alors je n'entrerai pas dans tous les détails de ces dernières publications, hein, parce que là on entre dans l'ordre de l'indicible, mais je mentionnerai seulement quelques titres parmi les ouvrages les plus récents. Donc, L'effectif et le rationnel, paru chez Vrin en 2008. Un ouvrage sur Hegel et Carl Schmitt, dont celui que nous, dont nous parlerons ce soir est en quelque sorte le prolongement. Et un que sais-je sur Hegel et l'hegelianisme, hein, qui doit aussi être bien connu, j'imagine, de nos agrégatifs, puisque Jean-François Kervégan est également le traducteur des principes de la philosophie du droit de Hegel, sur lesquels la plupart d'entre vous travaillent. Donc, aujourd'hui, il vient nous présenter son dernier ouvrage, qui vient tout juste de paraître chez Gallimard, « Que faire de Carl Schmitt ?» hein, point d'interrogation. Et je lui cède tout de suite la parole pour une présentation ce soir. Merci beaucoup d'être là.
Bien, je remercie vivement la Société de philosophie de Bordeaux et la librairie Mola de m'offrir l'occasion, pour la première fois, de parler en public de ce livre. Pour la première fois, c'est normal, puisqu'il est paru il y a à peine une quinzaine de jours. Donc je vais rapidement, je pense, expliquer les raisons qui m'ont conduit à écrire ce livre, nonobstant certains facteurs que j'évoquerai à la fin. J'ai rencontré l'œuvre de Carl Schmitt à la fin des années 1970, un peu par hasard. Et à l'époque, j'ai lu le seul livre de lui qui était alors disponible en langue française, c'était le livre « La notion de politique », traduction d'un texte allemand intitulé « Der Begriff des Politischen », suivi d'un autre texte qui s'appelle « Théorie du partisan », et ces deux textes étaient parus dans la collection que dirigeait Raymond Aron, « Liberté de l'esprit ». À vrai dire, cette rencontre que je fis de Carl Schmitt n'était pas tout à fait, je m'en suis aperçu rétrospectivement, le fruit du hasard. À cette époque, comme beaucoup d'intellectuels de ma génération, je me définissais par rapport au marxisme. Et j'étais, comme beaucoup d'autres, ça n'a rien d'original, frustré de l'absence d'une véritable théorisation du politique chez Marx et chez ses successeurs. D'où l'idée de chercher ailleurs, et même si cet ailleurs, en l'occurrence, se situait idéologiquement aux antipodes du marxisme, des éléments qui pourraient permettre de pallier cette carence. Alors cette lecture que je fis de Carl Schmitt me fascina. C'est un sentiment que partagent beaucoup des primo-lecteurs, si je puis dire, de Carl Schmitt. Les textes de Carl Schmitt ont un aspect fascinant et je dois dire que c'est quelque chose dont il m'a fallu apprendre à me défaire de cet effet de fascination qu'on peut avoir à cause du brio de l'écriture qui était le sien. Et cela m'engagea, en tout cas cette fascination suffit à m'engager, à me lancer un peu plus tard, dans une lecture que je peux dire exhaustive des écrits de cet auteur. Cette lecture complète fut favorisée par le fait que, à l'époque, je séjournais en Allemagne, où l'accès aux textes était beaucoup plus facile qu'en France, où les textes allemands étaient dispersés, souvent indisponibles. Quant aux traductions, ben c'est simple, il n'y en avait pas à part celle que j'ai évoquée tout à l'heure et deux autres traductions plus anciennes qu'on ne trouvait plus que dans des bibliothèques puisqu'elles dataient des années, respectivement, des années 1920 et des années 1930. Comme souvent dans la recherche, ce que j'ai trouvé, à savoir une pensée forte du droit dans son rapport à la politique, mais aussi à d'autres domaines, ce que j'ai trouvé fut bien différent de ce que je cherchais au départ. De ma lecture de Carl Schmitt et, je dois dire, d'autres auteurs moins suspects que j'ai découvert aussi durant cette période, une période qui a été marquée par un événement majeur, pas seulement à mes yeux, je crois, à savoir l'effondrement de ce qui s'appelait le socialisme réel. Eh bien, de cette lecture, de ces lectures, je suis sorti plus vraiment marxiste, mais certainement pas non plus schmittien, si ce terme a un sens, eh bien que l'on est parfois, qu'on m'est parfois qualifié ainsi. Ma lecture de Carl Schmitt n'a pas seulement participé, sans ça, ça ne vaudrait pas la peine que je vous en parle, d'une thérapeutique personnelle. Elle a aussi été, et c'est, je crois, plus important, pour moi en tout cas, un moment de la constitution de mon identité philosophique. Depuis le début de mes années de formation, je travaillais avec passion sur Hegel. D'abord, pendant de longues années, sur la logique de Hegel, puis sur la philosophie juridique et politique, sur ce que Hegel nomme l'esprit objectif. C'était donc assez naturellement qu'à la fin de mes études, à la fin de ma vie d'étudiant, je me propose de rédiger ce qu'on appelait à l'époque une thèse d'État. C'était ces machins interminables qui, normalement, vous prenaient toute une vie si vous surviviez jusqu'au bout. Une thèse d'État sur Hegel, en m'intéressant plus particulièrement... Alors, Carl Schmitt n'était pas du tout présent dans le scénario initial du film, en m'intéressant plus particulièrement au rapport que j'estimais nouveau, qui s'institue chez ce philosophe, Hegel, entre spéculation et positivité, ou si l'on veut, entre raison et entendement. Je voulais m'employer à montrer l'existence et l'originalité de ce rapport sur l'exemple non pas des sciences physico-mathématiques, sur lequel à l'époque plusieurs... Enfin, le rapport de Hegel aux sciences physico-mathématiques avait donné lieu à plusieurs travaux importants, notamment de Dominique Dubarle et de Jean Toussaint de Santy, qui était mon maître. Mais par intérêt personnel, je choisis d'étudier l'exemple des sciences positives relatives à ce que Hegel nomme l'esprit objectif, et d'abord sur celui du droit, sur l'exemple du droit. La découverte incidente de Carl Schmitt me permit à la fois de préciser et de donner un cours nouveau à ce projet. En effet, d'un côté, l'approche schmittienne du droit m'apparaissait comme une expression particulièrement radicale, parce que philosophiquement informée, de la positivation, si l'on peut appeler ça ainsi, du droit qui était en cours depuis le XIXe siècle, et dont le positivisme juridique, dont Schmitt est par ailleurs un adversaire virulent, constituait l'expression doctrinale, souvent naïve, il faut le dire. D'autre part, pourtant, la pensée de Schmitt me semblait, au fur et à mesure que j'apprenais à mieux la connaître, entretenir un rapport particulièrement intéressant avec la spéculation hegélienne, une pensée hegélienne que Schmitt connaît très bien, et qu'il qualifie en connaisseur de, je le cite, « pensée politique au sens le plus élevé du terme ». Il me vint alors l'idée de lire en miroir, c'est ainsi que j'appelais cela, les écrits de Hegel et de Schmitt, mon hypothèse de travail étant que l'image à coup sûr déformante et déformée que le décisionnisme de Schmitt offre du hegelianisme procure un éclairage indirect mais nouveau sur cette philosophie. Elle permet de mettre en lumière certains aspects inaperçus. Elle m'a aidé aussi à travailler à corriger une certaine image reçue de Hegel, une image, disons, libérale, avec laquelle l'interprétation schmittienne est en totale rupture. C'est ainsi que mon projet de thèse sur Hegel et la positivation du droit donna naissance à un livre sur Hegel et Carl Schmitt, dans lequel, ce n'était pas du tout prévu au départ, dans lequel ce dernier joue, Carl Schmitt, joue le rôle de révélateur, au sens chimique du terme, de la complexité de la pensée hegelienne, du droit et de la politique. Et ça, c'est le résultat de ce travail, ça correspond à mon livre « Hegel, Carl Schmitt » qui est paru en 1992 et qui a été réédité en édition de poche, en, je crois, en 2005. en 2005, en quadrige. Alors pourquoi avoir, près de 20 ans plus tard, consacré à Carl Schmitt un deuxième livre ? Ce sera le dernier, j'en fais le serment. Alors même que la confrontation avec Hegel, mise en scène dans le précédent, avait permis, à mes yeux en tout cas, d'établir les limites d'une pensée brillante, mais affectée d'une borne épistémologique, celle de la logique décisionniste du « ou bien », une logique dont Hegel, justement, nous indique qu'elle interdit à la pensée de faire éclore ses plus beaux fruits, c'est-à-dire ce que Hegel, dans son jargon, nomme le « spéculatif ». Alors, je l'ai fait, écrire ce livre, en quelque sorte pour solder les comptes, avant de passer à tout autre chose. Bon, j'écris actuellement, ou j'essaye d'écrire actuellement, un livre sur les droits dont les références théoriques sont totalement différentes, puisque ça va beaucoup plus chercher du côté de la philosophie anglo-saxonne. Solder les comptes, comme je l'ai fait naguère avec Hegel, le livre qui a été évoqué tout à l'heure, un auteur qui, je dois dire, pourtant, ne me lâche pas si facilement, malgré les efforts que j'ai faits pour divorcer par consentement mutuel. Il n'est pas d'accord. Et donc, j'ai voulu solder les comptes pour Hegel en publiant l'effectif et le rationnel. Et peut-être que j'envisage de le faire également dans quelques temps avec la philosophie pratique de Kant. Rassembler les quelques idées que j'ai là-dessus. Mais là aussi, il s'agit pour moi de clore un processus. Il m'a paru utile de tirer le bilan de ma longue fréquentation de Carl Schmitt, qui n'avait pas cessé depuis la parution du précédent ouvrage, même si elle est devenue plus épisodique, et de me demander, le plus honnêtement possible, ce que peuvent apporter aujourd'hui les écrits de Schmitt à une pensée du droit et de la politique ancrée dans le présent. C'est le choix de cet angle d'attaque qui explique les multiples références que je fais dans ce livre à des auteurs comme Walter Benjamin, comme Habermas ou Agamben, en général d'ailleurs de manière plutôt critique, et à des problématiques actuelles comme par exemple le retour de la guerre juste. Mais je voulais aussi, pour moi-même, marquer clairement, lorsqu'elles sont atteintes, les limites de l'aide que ces écrits peuvent nous apporter. Bref, il s'est agi pour moi de partir de Carl Schmitt. C'était le titre que j'avais initialement choisi et l'éditeur m'a incité, disons ça comme ça, à le modifier et à choisir que faire de Carl Schmitt. Non, j'avais choisi initialement d'intituler ce livre « Partir de Carl Schmitt » parce que l'expression peut recevoir un double sens. Il m'a souvent paru utile, et je crois toujours que ça l'est, de partir de lui, de partir de ses écrits, car ses écrits aident à former des questions impertinentes, mais en réalité très pertinentes, que sans lui, ou sans eux, ses écrits, on ne parvient pas à poser avec autant de tranchants. Par exemple, la conjonction entre droit et démocratie est-elle si évidemment nécessaire qu'on nous le dit constamment aujourd'hui ? Exemple, bien sûr, c'est Habermas. Mais il me faut aussi partir de lui au sens de lui donner congé lorsque je considère qu'il ne nous aide plus à penser ou lorsque son mode de formulation des questions envisagées devient un obstacle. Un seul exemple. Il y en a en fait dans chacun des 5 chapitres composant la deuxième partie du livre. Le chapitre sur la légitimité, c'est, je crois, le chapitre 5, cherche à montrer qu'une fois pris en considération les arguments, et ils sont consistants, développés par Schmitt dans son écrit de 1932, « L'égalité et légitimité », contre l'illusion, disons, d'une complétude et d'une autosuffisance de l'ordre légal, eh bien, une fois pris en compte ces arguments, il est possible, par des voies différentes de celles qu'emprunte quelqu'un comme Habermas, qui sur ce point développe des arguments qui sont massivement et explicitement anti-schmittiens, de reposer la question de la légitimité de la légalité, ou si l'on veut, de réintroduire l'idée d'une norme et de procédures immanentes qui permettent de justifier ultimement le formalisme légal dénigré par Carl Schmitt. Mais ce qui, de mon point de vue, reste acquis, c'est que c'est souvent à partir de Schmitt, ou à partir de positions théoriques conquises grâce à lui, au moins en partie grâce à lui, que l'on peut partir de lui, qu'on peut donc le dépasser, conserver. En fait, j'ai bien sûr présent à l'esprit le fameux et intraduisible vocable hegelien « aufheben »,« aufhebung ». En revanche, la dénégation vertueuse et offusquée, et là je ne donnerai pas d'exemple, ils sont légion, de ces positions scandaleuses, par exemple. Mais non, la politique n'a rien à voir avec l'inimitié. La politique participe de la filia. Et la seule vraie politique est la politique de l'amitié. Alors je viens d'évoquer ici le titre d'un livre de Derrida, mais je dois dire que ce n'est pas à lui. Ce n'est pas lui que mon présent propos vise, car justement, dans le livre portant ce titre, je considère que Derrida s'est astreint à un véritable dialogue, un dialogue sans concession, mais extrêmement approfondi et honnête avec les positions de Carl Schmitt. Donc de ce point de vue-là, je critique, disons, un style en empruntant une expression à Derrida, mais j'exonère Derrida lui-même, pardon, de ma critique. D'ailleurs, visiblement, c'est une question qui l'intéressait beaucoup, j'en ai parlé quelques fois avec lui, et malgré tout, il attachait de l'importance à dialoguer, non pas avec Carl Schmitt, bien sûr, mais avec ses écrits. Une telle dénégation vertueuse, pas celle de Derrida donc, mais celle de beaucoup d'autres, ne me paraît guère fructueuse. Sur certaines questions, et en particulier sur les 5 objets dont traite la deuxième partie du livre, la première partie ayant un caractère plutôt propédeutique, destiné à des lecteurs qui ne sont pas forcément des spécialistes extrêmement familiers des écrits de Schmitt. Donc, sur les 5 objets dont traite la deuxième partie du livre, je me suis efforcé de montrer que le passage par les analyses de Carl Schmitt permet d'en modifier les termes habituels et par là d'avancer. J'indique très rapidement de quoi il s'agit dans cette deuxième partie, qui est la partie proprement théorique du livre. Donc je rappelle que la première partie, je viens de le dire, est plutôt propédeutique. Et dans cette première partie, j'examine notamment, à très gros traits, dans le deuxième chapitre, la réception différenciée et contrastée de Carl Schmitt dans différents pays, dont la France. Mais je m'y intéresse en particulier à la réception de l'œuvre de Carl Schmitt au sein de l'école de Francfort, et plus précisément chez Habermas, dont je me suis efforcé de montrer en réalité, disons qu'il a beaucoup pensé à partir de et contre, bien sûr, Carl Schmitt. Alors je dois dire tout de suite que j'ai eu quelques discussions avec lui sur ce point. Il m'oppose une fin de non-recevoir totale. Il refuse de considérer qu'il ait pu, de quelque manière que ce soit, être influencé par Carl Schmitt. Je maintiens, textes à l'appui, mes positions. On en est là. Donc dans la deuxième partie, le chapitre 3, qui s'intitule Théologie, pardon, traite de l'éventuel fondement théologique de la politique, relevant l'équivocité de ce que Schmitt nomme théologie politique. L'expression en réalité n'a pas un seul sens, elle en a plusieurs, chez Schmitt lui-même. J'essaye de montrer que si Schmitt peut, comme il l'a fait, se dire un théologien de la science du droit, c'est au sens très particulier, suivant lequel le juriste est, selon lui, le rétenteur, je n'ai pas trouvé d'autre expression que celle-là, en fait il s'agit d'une traduction d'un motif qui se trouve, enfin d'un motif paulinien qui se trouve chez saint Paul, le motif selon lequel, enfin c'est très énigmatique, c'est dans la deuxième épître aux Thessaloniciens où saint Paul dit « Vous savez ce qui retient ce que nous appréhendons tous », donc la fin des temps, Et quelques lignes plus loin, dans le même passage, il parle de celui qui retient. Alors le mot grec, c'est katekon. Et on ne sait pas trop comment le traduire, mais une des traductions, c'est ce qui retient, ce qui freine en quelque sorte, ce qui freine la venue de l'Antéchrist et la fin des temps. Alors, selon Carl Schmitt, et c'est en ce sens, à mon sens, qu'il peut prétendre être un théologien, le juriste est en quelque sorte celui qui retient, c'est-à-dire la science juridique est un rempart contre la désagrégation anthropique de l'ordre du monde. Le chapitre 4, intitulé « Normativité », analyse le débat entre l'épistémologie juridique normativiste, incarnée par Kelsen, et l'épistémologie juridique décisionniste, professée par Schmitt au moins dans ses écrits des années 20, et le chapitre en tire certaines conséquences quant au statut de la rationalité normative. Le chapitre 5, intitulé « Légitimité », traite du rapport, je l'ai déjà évoqué, entre l'égalité et légitimité, et s'efforce de montrer qu'on peut, sur cette question, définir une voie différente de celle que suit Schmitt dans son écrit de 1932, « L'égalité et légitimité », sans pour autant adopter le formalisme procédural valorisé, non sans raison d'ailleurs, par quelqu'un comme Habermas. Et cette voie consiste à rendre compte de ce que j'appellerais la dialectique de délégitimation et de relégitimation de la légalité. Le chapitre 6, politique, revient sur le texte le plus connu de Schmitt, celui dont j'étais parti, comme tout le monde, la notion de politique, l'essai de 1932, et je propose d'aller au-delà des simplifications auxquelles ce texte a donné lieu, et que Schmitt a d'ailleurs encouragé, dire que le politique a pour index le rapport d'hostilité, le rapport ami-ennemi, ne signifie pas que ce rapport soit pour Schmitt l'essence du politique, il dit même explicitement le contraire. Au-delà de Schmitt, je m'efforce dans ce chapitre de montrer l'importance d'une prise en compte trop souvent négligée de ce que j'appelle le moment politique du droit. Enfin, le chapitre 7, intitulé « Monde », reconstruit les arguments de Carl Schmitt à l'encontre de l'idée d'une unification politique à venir du monde. Ces arguments se réclament d'une théologie de l'histoire cryptée, centrée là encore sur ce motif mystérieux du katekon, du ce qui retient, dont je montre que toutefois qu'elle n'est pas cette théologie de l'histoire cryptée nécessaire aux propos schmittiens, dont je retiens en revanche une leçon forte. Si le droit a quelque chose à voir avec l'acte de prendre, avec l'idée d'une prédation originaire qu'il s'agit de légitimer, et l'exemple paradigmatique, bien sûr, c'est la conquête du Nouveau Monde, eh bien, le monde, en revanche, le monde, comme tout, est précisément ce qui est inappropriable. C'est pourquoi il reste, et j'allais dire, c'est tant mieux, hors de prise. Le monde n'est pas un objet juridique. Sur tous ces points, il me semble que le passage par Schmitt modifie ou infléchit de manière féconde les termes dans lesquels les questions sont posées communément. Maintenant, que les réponses qu'il y apporte ne nous satisfassent pas, qu'elles heurtent, de plein fouet nos convictions les mieux assises, c'est tout à fait certain, mais du moins nous contraint-il à affiner nos questions, tout comme il nous contraint à repenser nos questions ou certaines d'entre elles. Ma lecture de Schmitt prend au sérieux sa revendication constante d'être avant tout juriste. Il écrit dans son Glossarium, un journal qu'il tenait au moment de son incarcération à Nuremberg, je vais y venir après, « Je suis un juriste et non un théologien. » Autrement dit, je ne lis pas Schmitt comme un philosophe politique qui ne va pas jusqu'au bout de sa démarche, telle fut la lecture par exemple de Léo Strauss ou de Kojève, deux philosophes qui ont intensément dialogué avec Carl Schmitt, dans des échanges directs. Je ne le lis pas non plus comme un théologien politique, c'est la lecture que fait Heinrich Meyer, un commentateur d'obédience straussienne, disons, mais extrêmement subtil, dont un livre consacré à Schmitt et Strauss a été traduit en français il y a quelques années, et dont un autre, qui s'appelle « La doctrine de Carl Schmitt », est en cours de traduction aux éditions du CERF. Selon moi, c'est plutôt en juriste, et c'est toujours en juriste, mais en juriste politique, pas en juriste normativiste, c'est pas un juriste à la Kelsen, disons. C'est toujours en juriste que Schmitt aborde les choses politiques, que ce soit dans sa période proprement décisionniste, qui correspond aux écrits des années 1920, la première théologie politique, la notion de politique, la théorie de la Constitution, ou ultérieurement, après sa conversion à l'institutionnalisme avec le texte intitulé « Les trois types de la pensée juridique », ou bien encore, après-guerre, lorsqu'il fait œuvre d'historien très politique, toujours, du droit international, avec le grand livre qu'est « Le Nomos de la Terre ». Autrement dit, je crois que c'est parce qu'il est juriste, non seulement de par les objets qu'il étudie, mais dans sa manière de penser, très casuistique, si l'on veut, c'est parce qu'il est juriste qu'il peut intéresser le philosophe. Pour ma part, je ne suis pas juriste, je suis philosophe, même si je fais de la philosophie du droit. Mais bien sûr, pour autant que ce que l'on entend par philosophie accorde quelque importance au droit et au raisonnement juridique, ce qui n'est pas le cas de toutes les orientations philosophiques. Pour ma part, les écrits de Schmitt que je trouve les plus intéressants sont ses textes les plus techniquement juridiques, comme la théorie de la Constitution, l'égalité et légitimité, et les articles qu'il a recueillis dans ses écrits de droit constitutionnel, ainsi que les analyses brillantes qu'il fait à propos de l'histoire des doctrines juridiques, comme le livre sur la dictature et le livre intitulé, donc j'en ai parlé il y a quelques instants, « Le Nomos de la Terre ». Je les trouve plus intéressants que les écrits plus essayistes, comme « La notion de politique », « Les deux théologies politiques », le livre qui fut le premier à être traduit en France et sur les instances de Jacques Maritain, le livre intitulé « Romantisme politique », ou d'autres comme par exemple, très intéressant, petit essai qu'il a écrit sur Hamlet et Hécube, qui a été traduit par Jean Jourdeuil. C'est assez curieux, metteur en scène. Bien entendu, il ne s'agit pas de nier l'intérêt que présentent les essais schmittiens, qu'il s'agisse des écrits précités, du livre sur le romantisme, ou de ses textes sur le catholicisme, dont la traduction vient de paraître, il y a quelques jours, accompagnée d'une substantielle présentation de Bernard Bourdin, en même temps que les quatre essais que Schmitt a consacrés à différents moments au contre-révolutionnaire espagnol Juan Tonoso Cortés. C'est paru il y a quelques jours aux éditions du CERF, ce recueil de textes, avec notamment deux textes très importants sur le catholicisme de Schmitt. Bon, j'ai commis une préface d'ailleurs pour ce volume. Mais ce serait une erreur, selon moi, de fonder une interprétation de la pensée de Schmitt sur ses écrits que je considère quand même comme exotériques, parce que je le lis d'abord comme un juriste, même s'ils sont, ces textes, plus séduisants, évidemment, que les textes strictement juridiques. Je crois que le noyau dur de la pensée de Schmitt, celui auquel je veux me confronter, rédige dans ses écrits juridiques. J'ai quelques instants encore ?
Absolument.
Alors, quand on parle de Carl Schmitt, il faut évidemment aussi parler du nazisme. On l'aura compris à ce qui précède, et je m'en explique de manière circonstanciée dans le livre, mon choix n'est pas de prendre cette question pour axe de lecture. Il y a à cela une première raison qui est toute simple. C'est que, sur le plan factuel, il n'y a aucune discussion à avoir sur ce sujet. À partir de 1933, et jusqu'à la fin de 1942 au moins, c'est-à-dire jusqu'à Stalingrad, pour être très précis, Carl Schmitt a été un nazi sans état d'âme. Il en a même fait des tonnes, allant dans certains écrits bien au-delà de ce que la plupart de ses collègues universitaires, dont il faut quand même se souvenir qu'ils ont été acquis ou ralliés dans leur immense majorité au nouveau régime, au régime hitlérien. Il faut malheureusement le rappeler, mais c'est un cas. Nous avons tendance aujourd'hui à ne retenir que les exceptions, ceux qui se sont opposés, ou qui sont partis, ou qui ont été contraints de partir. Mais la réalité, c'est que, et c'est valable pour toutes les disciplines, y compris pour la philosophie, la très grande majorité des universitaires allemands se rallia très massivement au national-socialisme. Et ça, c'est quelque chose qui pose question. Mais lui, il est allé plus loin, c'est incontestable, que la plupart de ses collègues. Il suffit d'un minimum d'informations, et nous disposons aujourd'hui d'un maximum d'informations, pour savoir que la réponse à la question « Carl Schmitt fut-il nazi ?» ne fait pas l'ombre d'un doute. Nous ne sommes pas dans la même situation que Raymond Aron lorsqu'il écrivait gentiment dans la préface de la notion de politique que Carl Schmitt ne fut jamais membre du parti nazi. Le pauvre Raymond Aron a été victime d'une information sans doute très partielle, évidemment qu'il en était membre, même si c'est un rallié, puisque il n'en était pas avant, il l'est devenu. Donc cette question ne fait pas l'ombre d'un doute, et je récuse totalement à cet égard les stratégies de savants apologètes qui tentent d'expliquer le ralliement de Carl Schmitt au nazisme, c'est-à-dire en fait de le rendre acceptable. Mais, et c'est ma deuxième raison, une fois les faits établis, et à mon avis, bon, il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus, ça ne mérite même pas. Une fois les faits établis, eh bien, la discussion n'est pas très intéressante. Et personnellement, ça ne m'intéresse pas de parler du nazisme de Schmitt. Pourquoi ? Parce que, en lisant les choses qui ont été écrites, qui vont dans un sens très opposé au mien, hein, ces dernières années, y compris en France, ceux qui s'évertuent, parfois avec talent, pas toujours, à montrer qu'il y aurait une essence nazie de la pensée de Schmitt, ben d'abord, je pense qu'il faut avoir une étrange idée de ce que c'est que la pensée pour croire qu'une pensée puisse avoir une essence nazie. Bon, par ailleurs, sur un plan strictement empirique, tout semble indiquer, mais ce n'est pas une excuse, que le ralliement bruyant de Carl Schmitt à un parti dont il préconisait 3 mois auparavant l'interdiction a obéi pour l'essentiel à des motifs opportunistes et carriéristes, non sans succès d'ailleurs, puisque Göring l'a fait nommer conseiller d'État, ce qui lui assurait, et il s'en est vanté, une voiture de fonction avec un petit fanion, un croix gammée, et il a un moment présidé l'Association des juristes nationaux socialistes avant d'en être écarté de cette présidence par les conflits internes au Parti national socialiste. Mais ce ralliement, quels qu'en soient les arrière-pensées, n'en a pas moins été entier, et il est révoltant dans sa démesure, une démesure qui se constate au moins à 2 reprises. Lorsque Schmitt publie en 1934 un article intitulé « Le Führer protège le droit », en vue de justifier sur un plan juridique, je dis bien sur un plan juridique, pas sur un plan politique, la nuit des longs couteaux, à savoir l'élimination de Röhm et DSA, pensez à aux damnés de Visconti, à la fin du film, qui traite exactement de cela. Et deuxièmement, encore pire, lorsqu'il organise en 1936 la sinistre Judentagung, rassemblant le gratin des professeurs de droit allemand, mais ils étaient là, pour dénoncer les méfaits de l'esprit juif dans la science juridique allemande. Ces faits, d'autres aussi, sont maintenant parfaitement connus, et ils sont abjects. Pourquoi alors, connaissant cela, pourquoi néanmoins m'être intéressé en connaissance de cause à cet individu ? D'ailleurs, non, je ne m'intéresse pas à l'individu. Je m'intéresse aux écrits. Eh bien, pour une simple raison, c'est que lorsqu'on lit ces écrits, il est manifeste que, à l'exception de quelques-uns, il résiste à la réductio ad Hitlerum dont parlait ironiquement Léo Strauss à propos du cas similaire à bien des égards de Heidegger. Si Carl Schmitt n'avait écrit que les textes que je viens d'évoquer, si sa production scientifique globale était d'un niveau comparable à celui le plus souvent consternant des plumitifs nazis, ben, il y a longtemps qu'on l'aurait oublié, ce serait tant mieux, comme on a oublié les autres. Mais ce n'est pas le cas, et c'est là le problème. Et ici, la similitude avec Heidegger, si souvent relevée, est frappante. Et cela conduit à une question abyssale, une question que seuls quelques-uns, comme Jacob Taubes, ont abordée de front. Comment peut-il se faire que des esprits aussi puissants que Heidegger et Schmitt ait pu se reconnaître, et avec enthousiasme, dans le national-socialisme. Et pourtant, ce fut bien le cas. À une telle question, qui n'est pas secondaire, nullement secondaire, pour ma part, je n'ai pas de réponse philosophique. Je dispose seulement d'éléments relevant d'une psychologie sommaire, pas très intéressante, bon, l'aspiration au pouvoir. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas cru devoir faire de la question du nazisme l'axe de ma lecture de Schmitt, étant entendu que les choix faits par l'individu me paraissent définitivement inexcusables, mais pas totalement inexplicables. Ma position est donc différente de celle des apologètes de Schmitt, comme de celle des dénonciateurs. D'un côté, je ne crois pas que le ralliement de Carl Schmitt au national-socialisme soit un détail. De l'autre, je maintiens, et je m'expose en disant cela à la critique, bien sûr, qu'il est légitime de s'intéresser à ses écrits, pour autant qu'ils disent quelque chose d'original et de fort, ce qui me semble évident dans la plupart des cas. Selon moi, et sinon je n'aurais pas écrit ce livre, on peut, et dans certains cas, on doit discuter les écrits de Carl Schmitt et abandonner leur auteur au sort qu'il s'est choisi. C'est ce qu'ont fait, je crois, les plus distingués de ses contradicteurs, et il y en a eu beaucoup.
Merci. Merci pour cette très belle présentation. Alors, avant de donner la parole à la salle, j'aurais quand même envie de poser une ou deux questions qui m'ont travaillé à la lecture du livre et puis en vous entendant ce soir. Tout d'abord, une question qui a trait tout de même à cette question des rapports entre Schmitt et le nazisme, puisque l'un des apports quand même précieux de votre livre, même si vous n'avez pas fait de la question du rapport au nazisme le fil directeur de votre lecture, c'est de, disons, vous réinterroger sur l'hypothèse de la parenthèse. Est-ce que finalement le rapport du juriste de cour au nazisme a été simplement une parenthèse? Alors, parmi les raisons que vous invoquez à ce moment-là pour finalement mettre une certaine distance entre la théorie schmittienne, en tout cas du Schmitt des années 20, et le nazisme, réside dans ce que vous appelez l'anti-étatisme nazi, hein, qui serait opposé donc chez Schmitt à la théorie du chef ou de la chefferie, hein, et à la théorie de la communauté du peuple. Alors c'est une question de détail, hein, par rapport à votre démonstration, mais qui m'a un peu intriguée. Enfin, dans la mesure où, pour avoir lu Mein Kampf, hein, dans le détail, il me semble qu'il y a vraiment une théorie de l'État. Hein, une théorie de l'État raciste, mais une théorie de l'État. Donc je me demandais pourquoi vous imputiez, en tout cas au nazisme, une théorie anti-étatiste qui permettrait de l'opposer à la théorie étatiste de Schmitt. Ça, c'est la première question.
Bon, il se trouve que quand j'écrivais mon premier livre, enfin le livre sur Hegel et Carl Schmitt, j'étais en Allemagne et dans un institut de recherche qui avait une bibliothèque très riche, et j'ai eu l'occasion à cette époque de passer de la lecture de Schmitt à celle des autres juristes nazis, notamment les SS. C'est une expérience absolument sidérante de lire les... Alors, et ce que j'ai retiré de cela, c'est qu'il y avait une constante dans le discours des juristes nazis, c'est l'anti-étatisme, à savoir... l'idée, c'était que... Et chez Schmitt lui-même, le texte qu'il a publié en 1933, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, qui s'appelle « État, mouvement, peuple », qui est une espèce de qui est un texte qu'il a écrit pour, en quelque sorte, rendre hommage après son ralliement, et pour faire oublier que ce ralliement était un peu tardif, puisqu'encore une fois, en 32, fin 1932 encore, Carl Schmitt disait qu'il fallait interdire le parti nazi et le parti communiste, c'est-à-dire des partis qui avaient les voix de 50% des électeurs, à eux deux. Quand j'ai lu donc ces auteurs, et notamment bon, c'est pas n'importe qui, c'est des gens qui avaient, par exemple, Hans Frank, le futur et sinistre gouverneur général de Pologne, exécuté à Nuremberg, qui était un distingué professeur de droit, et d'autres, Werner Best, un des chefs de la Gestapo, etc., qui était aussi un professeur de droit. Et constamment, le fil conducteur, c'est ce que nous apportons, c'est que maintenant, c'est le mouvement, c'est-à-dire le parti, qui doit commander à l'État. dans un autre langage, on disait, mais c'est dans un autre contexte et une autre épistémée, le parti commande au fusil. C'est ça que j'appelle l'anti-étatisme, l'idée que l'État, c'est-à-dire la bureaucratie, doit être subordonné au chef, d'abord, le Führer, qui est au-dessus du droit, et puis, bien sûr, au parti, qui est l'incarnation du peuple, et des forces saines du peuple. Et en ce sens, l'État, c'est Weimar. Et donc, c'est, d'une certaine manière, c'est ce qu'il faut abattre. Mais ça n'empêche... L'anti-étatisme verbal n'empêche évidemment pas de construire un appareil de étatique et un appareil de répression d'une puissance pratiquement jamais vue. C'est pas incompatible, mais je parle du discours. Oui. Le discours était violemment anti-étatique. Et d'ailleurs, lorsque, en 1936, Carl Schmitt a eu, entre guillemets, des ennuis, qu'il a d'ailleurs beaucoup exagéré par la suite, après-guerre, il a dit, vous avez vu, les SS s'en sont pris à moi, etc. C'est vrai qu'il a été l'objet de plusieurs attaques. Et quel était le thème de ces attaques? Alors j'ai lu ça de deux recensions de textes de Carl Schmitt qui sont parus dans la distinguée revue Das Schwarze Korps, le corps noir, qui était l'organe officiel de la SS. Et donc, il disait, ce monsieur Schmitt, il est suspect, parce qu'en réalité, ça reste un hegelien, quelqu'un qui croit à l'État. Il n'a pas compris que maintenant, l'État, c'est fini, que maintenant, c'est le parti, le mouvement.
Oui, alors, et pour poursuivre dans cette direction, j'avais envie d'en entendre davantage sur les rapports au libéralisme, justement, et à la critique du libéralisme. Alors, cette question peut prendre plusieurs formes. D'abord, les rapports, bon, c'est une question qui a été beaucoup travaillée, entre Schmitt et Strauss dans les années 30, et puis plus tard. Finalement, est-ce que Schmitt, disons, la critique que Schmitt propose de l'État unique, enfin, de la prise du monde, hein, comme vous l'évoquiez, n'a pas un analogue dans la critique que propose Strauss et qu'il adresse à Kojève de l'État universel homogène. Est-ce qu'on ne peut pas faire une sorte de parallèle, finalement, entre la critique, finalement, qui est adressée par Schmitt essentiellement à la SDN et ensuite à l'ONU, hein, et la critique que propose Strauss de cette unification en défendant précisément le politique comme le lieu de la pluralité conflictuelle irréductible et contre toute théorie de la fin de l'histoire, disons.
J'avais jamais envisagé les choses sous cet angle-là, mais ça me semble assez séduisant. Alors, mais à propos Strauss-Kojève, justement, ce qui est intéressant, c'est que le dialogue, il y a trois, hein, dans les années 50, et ils n'ont pas arrêté, tous les trois, de se renvoyer la balle, de discuter, soit dans des correspondances. Kojève est allé à plusieurs reprises rendre visite à Carl Schmitt dans sa retraite forcée mais en Allemagne. Et il y a même, j'envisage peut-être un jour, je ne sais pas si je le ferai, on dispose maintenant de leur correspondance. Et elle est extrêmement intéressante. J'en ai lu une partie et j'envisagerai éventuellement de la traduire. J'en ai parlé à philosophie, ça les intéresserait éventuellement. Alors, effectivement, il y a notamment débat entre Schmitt et Kojève sur la question de l'État universel et homogène. Et Kojève dit à Schmitt, mais vous n'avez pas compris que la vérité de l'histoire, c'est Staline. Il lui dit très clairement comme ça, et d'où les fameux propos de Kojève, moi je suis un stalinien, c'est-à-dire Staline comme matérialisation de ce qu'il considère comme le destin de la politique, à savoir l'État universel et homogène exerçant une prise sur le monde. Et Schmitt, effectivement, réagit fortement à ça, notamment dans les deux textes qu'il publie, je crois que c'est en 50 ou 51, qui s'intitulent tous les deux « L'unité du monde », dans laquelle il... Oui, d'une certaine manière, comme Strauss, il dit « l'unité du monde, c'est un fantasme ». Et il cite à ce propos, d'ailleurs, pour le critiquer, cette phrase très intéressante qu'un secrétaire d'État américain avait prononcée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il avait dit, j'ai oublié son nom, je crois, Stimson, il avait dit « le monde est devenu trop petit pour reconnaître deux systèmes politiques ». Et Schmitt dit « Non, mais ça, c'est le fantasme techniciste, ceux qui pensent que la technique va remplacer la politique et que donc l'unification technique du monde la religion de la technicité commune à l'Est et à l'Ouest est le prélude à une unité politique, alors qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est retrouver une nouvelle pluralité, etc. Et là, bon, je crois qu'empiriquement, et les discussions qu'il y a eu au moment de l'effondrement du socialisme réel, où de nouveau Fukuyama, reprenant le rôle de Kojève, mais dans un autre sens, a dit « voilà, ça y est, l'unité du monde, elle est devant nous, maintenant il n'y a plus qu'un seul système politique, et il ne peut plus y en avoir qu'un seul ». On a vu ce qu'il en est, la suite a montré que les choses n'étaient peut-être pas aussi simples que cela.
Je crois qu'on va s'arrêter, il nous reste à vous remercier très chaleureusement pour votre conférence. Alors nous accueillerons mardi prochain à 18h Catherine Colliot-Hélène pour son dernier ouvrage, donc La démocratie sans démos, donc dans une semaine exactement, le 6 décembre. Merci.
Un très bon livre.